Radio Kapi.
Les groupes armés du Nord Kivu n'ont que deux choix, soit la reddition volontaire, soit attendre leur traque suivie de la prison. Cette mise en garde est du coordonnateur provincial du programme DDR communautaire. Jacques Katembo lance ainsi un appel aux groupes rebelles à déposer les armes sans attendre et sans condition. Un conflit de pouvoir coutumier soldé en incendie de plus de 30 maisons. Cela s'est passé dans la nuit de mercredi à hier jeudi dans la localité de Bakwa Sakalunga dans le Kasaï oriental. Les éléments de la police dépêchés sur place ont arrêté deux personnes. Et puis, l'invité Diego Zoria, coordonnateur humanitaire adjoint de l'ONU en RDC, il s'exprime sur les allégations d'exploitation et abus sexuels impliquant certains humanitaires, cela pendant la riposte de la récente épidémie d'Ebola dans Beni et Butembo au Nord Kivu. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part de Goma. Le coordonnateur provincial du programme DDR communautaire Nord Kivu demande aux groupes armés locaux à déposer les armes sans attendre et sans condition. Jacques Katembo a fait cet appel hier après sa rencontre mercredi avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. Selon lui, l'état de siège en application en province est dans la logique non pas de négocier mais plutôt d'imposer la paix. Aussi voudrait-il que les combattants locaux se rendent volontairement et que la traque militaire cible particulièrement les groupes rebelles étrangers. Jacques Katembo le dit au micro de Bernard Nyangi.
Nous voulons dire à tous les groupes armés du Nord Kivu qu'ils ont deux choix. La reddition volontaire, sa condition, y intégrer le programme de démobilisation et réinsertion communautaire. Le deuxième choix, c'est de résister et attendre la traque par le gouverneur militaire, parce que c'est sa mission, pour venir imposer la paix. Pour le deuxième camp, les gens qui vont attendre la traque des militaires, la finalité, c'est aller au tribunal. Parce que quand on vous capture, on ne va pas vous amener au DDR. Là, vous êtes en train d'aller à la prison et dans les juridictions militaires. Donc, ici, les groupes armés doivent choisir. Ils doivent, sa condition, se rendre et permettre aux opérations de l'état de siège qui seront déclenchées soient orientées vers les groupes armés étrangers tels que les ADF NAM.
Par ailleurs, la Suède et le Canada expriment leur soutien à l'état de siège en vigueur depuis le 6 mai dernier dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Les ambassadeurs des deux pays l'ont annoncé hier au sortir d'une audience avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. Le lieutenant-général Constant Dima a reçu ce même jour les expressions de soutien de la part d'une délégation des sénateurs et députés nationaux congolais, le compte-rendu de Bernard Nyangi.
Dans leurs messages successifs au sortir de cette audience, les deux ambassadeurs Henri Kerasbrandt de la Suède en RDC et Benoît-Pierre Lamaré du Canada ont mis l'accent sur le respect des droits humains, l'accès à l'aide humanitaire et la liberté de presse pendant l'application de l'état de siège au Nord Kivu.
On a échangé sur différentes priorités comme le respect des droits humains et l'égalité des genres.
On a aussi parlé des questions d'accès à l'aide humanitaire. J'arrive du Sud Kivu, j'ai constaté dans un camp de déplacés comment c'était important de pouvoir assurer cet accès-là. Et évidemment, on a parlé de la question de la liberté des médias. On a parlé aussi d'une chose, c'est la collaboration avec la MONUSCO.
Le gouverneur militaire du Nord Kivu a aussi reçu en audience une délégation de sénateurs et députés nationaux de passage pour Bukavu. Ceux-ci ont exprimé au lieutenant-général Constant Dima Kongba leur soutien aux opérations militaires contre les groupes armés qui seront incessamment lancés avant de faire un appel à une adhésion massive de la population à cette vision du chef de l'État de restaurer la sécurité et la paix dans cette partie de la RDC. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Nord Kivu toujours, l'évêque du diocèse de Butembo Beni condamne l'assassinat des leaders musulmans à Beni durant ce mois de mai et appelle l'État congolais à la refondation structurelle de sa vision et de ses approches sur l'insécurité dans l'est du pays, cela spécialement en cette période de l'état de siège. Monseigneur Sikou Lipaluku Melchisedek s'est exprimé hier à Butembo dans un message des condoléances adressé à la communauté musulmane grâce à Mzati. Reportage.
Dans ce message, l'évêque de Butembo Beni exprime sa consternation face à l'assassinat des deux leaders musulmans à moins d'un mois par des inconnus. Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek indique que son diocèse, qui est fermement engagé dans la construction de la paix, est profondément attristé par ces assassinats. Au nom de la dignité et de la sainteté de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, le diocèse de Butembo-Beni condamne ces actes ignobles et dénonce une fois de plus cette désacralisation de la vie et cette banalisation du sacré, on peut lire dans ses messages. Ainsi, Monseigneur Sikuli exhorte l'État congolais, spécialement en cet état d'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, à une refondation structurelle de sa vision et de ses approches sur la situation d'insécurité et des massacres dans l'Est de la RDC. Pour rappel, Cheikh Djamali Moussa, responsable de la mosquée de Mavivi, a été tué par balle le lundi dernier à Beni, 2 semaines après l'assassinat du Cheikh Ali Amini, président de la communauté islamique du Congo Komiko Beni, tué en pleine prière dans la mosquée centrale de Beni. Butembo, Grâce Amzati, Radio Kapi.
L'état de siège décrété par le président de la République, la sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame et l'appel au dialogue pour une cohésion nationale sont entre autres des sujets évoqués par André Alain Atundu, cet ancien porte-parole du Front commun pour le Congo FCC, s'est exprimé hier au cours d'un point de presse à Kinshasa. Paul Matendo Mayamba, reportage.
Parlant de l'état de siège, André Alain Atundu estime que sa durée d'un mois est insignifiante.
Au regard de la complexité de la situation dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les 30 jours de l'état de siège s'avèrent a priori insignifiants. La durée minimum devrait être d'au moins 3 mois pour garantir l'efficacité de cette décision présidentielle.
À propos de la sortie médiatique du président rwandais sur la RDC, ce communiquant du FCC appelle plutôt les autorités congolaises à exploiter le rapport mapping afin de saisir les tribunaux compétents.
Il faut que nos autorités continuent à appuyer, à exploiter ce rapport mapping, à porter nos plaintes auprès des tribunaux compétents.
Autre aspect abordé, c'est le dialogue national qui porterait notamment sur la gouvernance.
La gouvernance doit être démocratique, c'est-à-dire tolérable à la contradiction. Les élections constituent le poumon de respiration de la démocratie.
Selon lui, ce dialogue est indispensable pour mettre fin à l'insécurité dans l'est de la RDC.
Direction le Kasaï oriental, je vous le disais en titre, plus de 30 maisons ont été incendiées dans la nuit de mercredi à hier jeudi dans la localité de Bakwa Sakalonga, groupement de Bakwa Sumpi, territoire de Lupatapata. Cela fait suite à un conflit de pouvoir coutumier qui oppose un prétendant au pouvoir de cette localité au chef intérimaire désigné par le chef de secteur de Bakwa Sumpi après la suspension du chef en exercice. Explication Esther Ndalafina.
Les sources sur place affirment que les troubles ont commencé autour de 2 heures du matin pendant que les habitants de la localité de Bakwa Sakalonga étaient plongés dans le sommeil. C'est alors qu'un prétendant au pouvoir de cette localité ainsi que ses partisans se sont livrés à l'incendie des maisons. La même source affirme que cet homme et son groupe manifestaient leur mécontentement suite au retour au bercail d'un chef désigné au niveau du secteur pour assumer l'intérim du chef en exercice suspendu il y a de cela 2 mois. L'administrateur du territoire appuie par ailleurs la position prise au niveau du secteur de désigner le frère du chef suspendu pour assumer l'intérim, Crispin Biya.
Un chef de village, c'est quelqu'un de sa famille qui doit faire l'intérim pour éviter de propos que il n'a pas été remercié ou il n'a pas été écarté d'office.
Les éléments de la police dépêchés sur place le jeudi ont arrêté 2 personnes qui ont été conduites au sous-siat de la peine Sechilonde. Le prétendant au pouvoir et son groupe sont en cavale, affirme l'administrateur de territoire, tandis que les propriétaires des maisons incendiées se sont réfugiés dans les localités voisines. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Rendons-nous en Ituri. Des dizaines de personnes déplacées, dont des enfants, sont mortes en l'espace de 3 semaines au groupement Baviba, dans le territoire d'Irumu. Le manque de nourriture et des logements décents sont les principales causes de ces décès, selon la société civile locale. Ces déplacés ont fui les opérations militaires en avril dernier entre l'armée et les miliciens de la FPIC. La société civile lance un SOS aux humanitaires pour venir en aide à ces personnes vulnérables. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
La situation humanitaire demeure précaire dans la chefferie de Walendu Bindi après les affrontements entre l'armée et les miliciens de la force patriotique intégrationniste du Congo FPIC à Nyankunde. Plusieurs sources locales dans la zone attestent que les habitants qui ont fui ces combats sont dépourvus de toute assistance en nourriture et en médicaments dans leur lieu de refuge. La société civile de Nyankunde affirme avoir déjà enregistré une cinquantaine de décès, parmi lesquels des enfants et des femmes allaitantes. Son coordonnateur Pascal Kisezwa demande aux autorités locales ainsi qu'aux humanitaires de voler au secours de ces déplacés en situation de détresse. Pascal Kisezwa.
Nous constatons les cas de sécurité alimentaire et le manque de possibilités à l'accès aux soins, surtout dans le cadre des santé. À cause de cela, nous avons déjà enregistré plus de ces 4 cas de décès. Là où la population est en train de passer, nuit, il y a manque de nourriture, il y a manque de soins. C'est pour cela, la première chose, c'est d'abord de faire état des liens à la situation sécuritaire qui est afin de permettre à cette paisible population de regagner son milieu respectif.
C'est depuis environ un mois que le centre de Nyankunde s'est vidé de ses habitants qui ont fui dans la brousse. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Merci de nous recevoir à Boende, province de la Chuapa. Ici, le cadre de concertation de la société civile dénonce l'abandon des cours actuellement par les enseignants dans plusieurs écoles. C'est la conséquence du retard de paiement de leur salaire du mois d'avril dernier. Depuis une semaine, ils font la queue devant l'agence du transfert d'argent solidaire, agence qui a désormais la charge de la paie, opération retirée de Caritas Mbandaka Bikoro. Selon le président du cadre de concertation, sur 3400 enseignants concernés, à peine 20 sont payés par jour, ce qui crée un désespoir tant pour les parents que pour les élèves confrontés cette année à plusieurs interruptions des enseignements. Le président du cadre de concertation de la société civile de la Chuapa, Prosper Bakoli, joint par Paul-Richard Malengela.
Ce qui est étonnant est que sur un total d'environ 3400 enseignants à payer, solidaire depuis une semaine, se paye le luxe de payer 20 enseignants par jour. Ainsi, la paie prendra fin un mois après. Conséquence, les enseignants ont déserté les écoles pour attendre leur salaire car la paie est individuelle. Quel sera alors le sort de cet élève de la Chuapa privé de cours par plusieurs interruptions du programme dû à la pandémie de COVID-19? Ces élèves ne peuvent pas alors passer des classes car ils n'ont pas eu suffisamment de matière. Voilà notre désolation. La première des solutions, c'est de demander à Solidaire de multiplier plusieurs guichets afin de désengorger cet attroupement d'enseignants. De terminer la paie à temps, ça sera la meilleure des choses.
Peut-être il y a un problème de liquidité.
Négatif. C'est un problème de système. Ils ne sont pas habitués à payer les gens, surtout une grande masse de la population comme ça.
Ici à Kinshasa, 180 élèves du complexe scolaire Sacré-Cœur de Rigini ont effectué récemment une visite guidée à l'aéroport international de Ndjili. Encadrés par leurs enseignants, ils ont découvert les installations aéroportuaires. Objectif, allier la thématique des moyens de transport appris à l'école à la pratique sur le terrain. Jean-Pierre Elali et Koko étaient de la partie.
Ils sont tous des blancs bleus vêtus avec un masque. Ce sont 180 élèves du degré terminal du primaire du complexe scolaire Sacré-Cœur de Rigini. Ils font le tour de la salle d'attente de la partie modulaire du Service national des migrations et du Programme national de l'hygiène aux frontières, puis les tarmacs, les camions anti-incendie et les autres installations de la régie des voies aériennes. À chaque étape, les élèves suivent les explications du guide de la RVA. Maya Bagheta, de la 6e année.
Nous venons faire des sorties scolaires par rapport au thème qu'on nous donne à l'école et ça nous aide aussi à apprendre de nouvelles choses.
Pour Gédéon Moussinga, enseignant, la visite permet aux enfants d'allier la théorie à la pratique.
C'est pour la découverte, parce que nous avons enseigné sur le thème les moyens de transport modernes et les moyens de transport ancestrales. Alors ça nous a poussé à venir ici faire voir aux enfants quels sont les moyens de transport modernes.
Les hôtes exceptionnels de la RVA montent ensuite dans un avion et y découvrent l'intérieur. Tout se termine autour d'un repas dans une ambiance bon enfant. L'aéroport international d'Ndjili, Jean-Pierre Elali Ikoko, Radio Kapi.
Actualité, Afrique monte.
Les livraisons des vaccins contre le coronavirus sur le continent africain via l'initiative internationale COVAX sont presque à l'arrêt, s'inquiète la division africaine de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ces trois derniers mois, seuls 18 des 66 millions de doses attendues ont été réceptionnées. L'OMS en appelle à la solidarité internationale.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le coordonnateur humanitaire adjoint de l'ONU en RDC. Diego Zoria s'exprime sur les allégations d'exploitation et abus sexuels impliquant certains humanitaires pendant la riposte de la 10e épidémie d'Ebola dans la région de Beni et Butembo, Nord Kivu. Il s'entretient avec Martial Papi Mukeba.
Diego Zorila, bonjour.
Bonjour, Martial.
Depuis quelques semaines, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer des allégations d'abus sexuels commis par des humanitaires, nationaux comme internationaux, pendant la 10e épidémie d'Ebola au Nord Kivu et à Ituri. Au niveau de la coordination des affaires humanitaires en RDC, qu'avez-vous déjà fait pour identifier ceux qui sont impliqués dans ces abus?
Nous sommes choqués et nous sommes dépités, nous sommes très émus par toutes ces allégations de cas d'exploitation sexuelle et abus qui auraient été commis pendant la réponse à la 10e épidémie à maladie à virus Ebola, surtout dans la zone de Beni et dans la zone de Butembo. Et il y a aussi des investigations qui sont en cours. L'OIM, l'UNICEF, qui avait été mentionné dans le premier article qui est apparu au mois d'août l'année dernière, ont mandaté les Nations Unies, le Bureau d'investigation des Nations Unies, pour conduire des investigations. Je sais que Oxfam a aussi conduit des investigations. Ça a mené d'ailleurs à la suspension de staff. Et en ce moment-ci, l'OMS, qui le gros des cas mentionnés dans ces articles sont référés à du personnel qui aurait travaillé à l'OMS, l'OMS vient de commencer ses investigations. Donc nous sommes, nous, depuis la coordination, c'est encourager ces investigations, assurer qu'elles aient lieu d'un côté, et comme je vous ai dit, travailler dans le plus important, parce que le plus important, c'est avoir une approche centrée sur les victimes. C'est assurer qu'il puisse y avoir des mécanismes de prévention, des mécanismes de détection, des mécanismes de dénonciation et finalement un mécanisme de soutien aux victimes. Et nous encourageons toutes les personnes qui s'estiment avoir été victimes de ce comportement les dénoncer.
Et que se passera-t-il en cas d'identification des ces ayant effectivement trempé dans ces cas d'abus sexuels, surtout que beaucoup sont déjà rentrés chez eux, qu'il s'agisse des internationaux ou des Congolais qui sont venus d'autres provinces travailler dans la zone affectée?
Tout dépend de quel est le type de comportement, parce que les exploitations sexuelles et les abus peuvent être même des actes criminels. Donc dans ces cas-là, c'est-à-dire il peut y avoir des actes de violence sexuelle non voulue. Il peut y avoir aussi d'autres genres de comportements, c'est-à-dire une relation transactionnelle, c'est-à-dire une relation voulue par les deux parties, mais par laquelle une des deux parties s'est prévalue de son pouvoir sur l'autre partie pour convaincre d'avoir des comportements, des engagements sexuels. Certains de ces comportements, s'ils sont prouvés, peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires, peuvent faire l'objet d'une termination de contrat, peuvent faire l'objet même d'actions civiles. La victime peut porter plainte contre les tribunaux pour des actions civiles, et certains peuvent mettre même des comportements criminels. Les indications que nous avons, la plupart de ces comportements, en fait, ce sont des travailleurs congolais, et ils sont soumis à la justice congolaise. Mais de toute façon, je voudrais juste clarifier une chose, ce n'est pas l'OMS qui est accusé. Ce sont des individus, ce sont des hommes, des femmes, surtout des hommes, j'imagine, qui sont accusés d'avoir eu des comportements qui, d'après les standards des Nations Unies, qui sont des standards très élevés, pourraient constituer de l'exploitation sexuelle et des abus.
Et comment vous qualifiez ces actes si ils sont avérés?
Chacun d'entre eux individuellement en fonction de ce qui sera avéré. Comme je dis, certains de ces comportements les plus déviants, les plus extrêmes, peuvent constituer des crimes. J'ai entendu, il y a un article qui parle d'un cas de viol. Si ceci est avéré, c'est un crime.
Qu'est-ce passera-t-il s'il y a des internationaux qui se retrouvent aussi dans la même situation et qui ont déjà quitté les territoires congolais?
Si ce sont des crimes avérés, il peut y avoir un mandat d'arrêt contre eux. Mais ce sont des individus, ce n'est pas l'organisation qui répond des crimes. Ça, vous en comprenez bien. Parce que je sais que dans certains contextes, là où il y a des soldats, des membres, des contingents, des forces armées qui sont impliqués dans des cas comme ça, la crainte, c'est qu'ils puissent être rapatriés et extraits à la juridiction du pays. Ici, non. Les humanitaires, les travailleurs humanitaires, moi-même, nous sommes des civils. Et si moi, demain, je commets un crime dans la République du Congo, même si après je repars dans mon pays, le Congo peut émettre un mandat d'arrêt contre moi pour des crimes que je puisse avoir commis. Mais comme je dis, de l'information que nous avons, la grande majorité de ces cas sont des cas d'exploitation sexuelle et abus. Oui, peuvent être des cas d'exploitation s'ils sont avérés, mais ils n'arrivent pas à être des crimes. C'est une chose différente.
Diego Zorila, merci.
Merci beaucoup.
Notre invité est le coordonateur humanitaire adjoint de l'ONU en RDC, s'entretenait avec Martial Papi Mukeba. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga, supervision de Ben Kabamba. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.